L'Évangile de Jean, chapitre 19 à 23. Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Au nom de Jésus. Le soir de ce dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison dont ils avaient fermé les portes à clé. Car il craignait les autorités juives. Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Après avoir dit ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Amen. Drôle de texte pour un jour de Pentecôte, puisque si vous avez bien lu, c'est au moment où, après la résurrection, ce n'était pas le jour de la Pentecôte. Pourtant, le lectionnaire l'a choisi. Et justement, d'où une question qui m'est posée. Finalement, je me pose cette question-là. Quand est-ce que le Saint-Esprit a été donné aux apôtres, finalement? Est-ce que c'était au jour de la Pentecôte ou avant? C'est une question qui se pose. Est-ce que après le moment où Jésus est remonté au ciel, où ils se sont enfermés dans la pièce d'en haut, par crainte de représailles, ou bien juste après la résurrection, comme ce qui est annoncé ici dans notre péricope. Et en plus, si vous avez lu le texte dans Actes des Apôtres, chapitre 2, tout à l'heure, et en comparant avec celui de Jean, chapitre 20, il y a beaucoup de similitudes entre les deux événements. Ici, dans notre texte, ils étaient tous aussi enfermés dans une pièce. C'était le même contexte lors de le jour de la Pentecôte. Ils étaient enfermés dans une pièce par crainte. Et tout à coup, d'un seul coup, Jésus était au milieu d'eux. Avec une porte verrouillée. Comment Jésus a-t-il pu entrer alors? D'où est-ce qu'il est rentré? Est-ce qu'il est rentré par le cheminée comme le Père Noël? Pourtant, il avait un corps. Par quel moyen a-t-il pu entrer? Est-ce que ça vous a jamais posé cette question-là dans votre réflexion? Oui, on peut dire oui, il est Dieu. Mais c'est une question quand même qui est légitime. Forcément, la logique nous obligerait, je dis bien la logique nous obligerait à dire, mais non, il n'était pas réel. C'était une vision peut-être, ou c'était son esprit qui était là. Je dis cela parce qu'il y a des exégètes et des commentateurs qui disent, et des écrivains qui ont avancé que tellement ils étaient dans la tristesse. Rappelez-vous, ils étaient juste après la mort de Jésus. Ils étaient dans les larmes, dans le deuil, que leur imagination leur en fait un petit tour. Quand on est tellement triste, surtout après un deuil, des psychologues pensent que notre cerveau reproduit la mémoire de la défunte. Et parfois, comme si on le voyait encore dans la maison. Et c'est pour cela, disent-ils, qu'en fait, ce n'était pas vraiment Jésus qui était au milieu. Certaines personnes le disent. Et dans l'autre récit, le jour de la Pentecôte, ils se sont aussi enfermés dans la pièce d'en haut. Et voilà, quand ils étaient tous réunis, le Saint-Esprit est venu sur chacun des personnes qui étaient là. Mais cette fois-ci sous la forme de langue de feu. Personnellement, ce qui attire mon attention dans ces deux récits, c'est la façon dont le Saint-Esprit a été donné et manifesté. Nous avons eu l'habitude, moi y compris, de penser que le Saint-Esprit a été donné qu'au jour de la Pentecôte seulement. Et avant cela, qu'est-ce qui s'est passé alors? Or ici, il est bien dit, recevez le Saint-Esprit. Et c'était avant la Pentecôte. Recevez le Saint-Esprit en faisant quel geste? En soufflant sur eux. Non pas en imposant les mains, en soufflant sur eux. Alors la question qui se pose, c'était quoi alors le Saint-Esprit qui a été donné en Pentecôte? Et c'est quel esprit que Jésus avait soufflé sur ses disciples lors de sa résurrection? Je pense que pour comprendre le lien entre ces deux récits, il faut reprendre la parole de Jean-Baptiste qui disait « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui vient est plus puissant que moi, je ne suis pas même digne de délier la courroie de ses sandales, il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec le feu. » Il ne vous baptisera pas avec de l'eau, mais avec le Saint-Esprit et avec le feu. Donc, ce qui se passe ici, chers frères et sœurs en Christ, c'est le moment où Jésus en personne baptisait ses disciples. Jésus est en train de baptiser les apôtres après sa résurrection. Je me rappelle bien une fois, lors de notre étude biblique, je ne sais plus qui m'a posé cette question, on m'avait posé la question, est-ce que les apôtres ont été baptisés? Puisque Jésus nous donne l'ordre de baptiser le monde entier. Et les douze alors? Je ne vois pas un texte ou un verset où il est dit, les apôtres ont été baptisés. La réponse est là. Oui, ils ont été baptisés. Et c'est Jésus en personne qui l'a fait. Il n'avait pas besoin d'eau de le faire, mais il l'a fait avec l'Esprit, le feu. Donc en somme, le jour du baptême des apôtres, c'était ce jour après la résurrection du Christ. Et en plus, c'est très significatif. Il l'a fait juste après sa résurrection. Et si vous avez suivi le chant tout à l'heure avant la prédication, c'est quoi le baptême? C'est significatif. Le baptême, c'est vraiment cela, mourir avec le Christ et être ressuscité avec lui. C'est ça la signification du baptême. Et c'est au moment du baptême que nous recevons le Saint-Esprit comme il l'a fait aux disciples. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte alors? Le jour où le Saint-Esprit est descendu sous une forme de feu, c'était le jour de la consécration de l'Église, la consécration de la mission, puisque juste après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, ils sont sortis à l'extérieur pour témoigner dans le monde entier avec plusieurs langues. Donc c'était le moment de la consécration pour la mission. Ce n'était pas du tout le baptême du Saint-Esprit qu'on essaie de véhiculer aujourd'hui, comme disent les anabaptistes, mais c'était la consécration pour la mission. Maintenant, le temps de la mission est arrivé, vous allez témoigner de moi dans le monde entier. Et pour une simple, unique raison, rappelez-vous de l'histoire de la vocation d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6, versets 6 à 8, je vais le lire. Ésaïe, chapitre 6, versets 6 à 8, il est dit au nom de Jésus. « Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. » Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole ?»« Moi, » répondis-je, « tu peux m'envoyer. » l'ange de Dieu a mis le feu dans la bouche d'Ésaïe. Pour le consacrer, maintenant, tu es mon envoyé. Et dans cette histoire, le feu qui a été mis sur la bouche d'Ésaïe, c'est la consécration pour le ministère de la parole, symbolisé par le feu, pour annoncer la parole de Dieu qui est comme le feu. Et n'oubliez pas aussi ce que Jésus avait dit dans Luc chapitre 12, verset 49, voilà ce qu'il a dit. « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Amen. Donc c'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit le jour de la Pentecôte. Et comme au moment où la flamme était tombée sur la tête de tous les disciples, tout de suite après, l'œuvre de Dieu se manifesta auprès de différentes nationalités qui étaient présentes à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Donc la Pentecôte, c'est le temps de la mission, la Pentecôte. C'est le temps où l'Église doit aller en mission vers le monde entier. C'est le temps où il ne faut plus se replier sur nous-mêmes, mais d'oser aller témoigner. Et nous avons reçu cette flamme, cette passion d'annoncer la parole de Dieu. Et en se basant à ce qui est dit au verset 22 de notre texte, le baptême n'est pas un résultat d'une démarche de l'homme vers son Dieu. Au contraire, ça se voit clairement ici. Jésus a insufflé sur les disciples l'Esprit Saint. Ce geste est un acte, si on le lit à travers la Bible tout entière, c'est un acte créateur. Comme au premier jour de la création, rappelez-vous, lorsque Dieu façonna l'homme de la poussière, l'Éternel insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Et sans le souffle de vie, il n'est qu'un homme. Mais avec le souffle de vie, il devient un être vivant. C'est intéressant comme définition. Un être animé par le souffle de Dieu. Ce qui nous intéresse dans cela, c'est que ce geste que le Père avait fait au début de la création a été repris exactement par Jésus ici. Il a refait exactement les gestes de son Père. Il a insufflé le souffle de vie de Dieu sur les disciples. La résurrection, c'est la création. C'est Dieu qui nous crée pour un être nouveau. Dans le livre d'Ézéchiel aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, il y a une vision étonnante que Dieu avait montrée à son prophète Ézéchiel. Il l'a ordonné de prophétiser sur les ossements desséchés. Les ossements commençaient à se rapprocher, imaginez un peu la scène. Les nerfs qui commençaient à sortir, ensuite la chair et la peau reviennent tout doucement. Oui, ça existe ça dans la Bible. C'est pour ça que je vous invite à lire vos Bibles. Il y a des histoires extraordinaires. Les ossements commençaient à se rapprocher, ensuite les nerfs, la chair et la peau reviennent tout doucement. Ils n'étaient pas encore vivants. Et à la fin, quand tout est rassemblé, il donne son souffle de vie pour qu'ils reprennent vie. C'était une vision qui a été donnée à Ézéchiel. Pour lui annoncer justement quoi ? La mission qu'il attend. La mission d'Ézéchiel, c'est de rebâtir Israël et le relever de ses cendres. Parce que c'était le chaos, la mort. Et il fallait oser rebâtir. Et en tenant compte de ces deux textes, nous pouvons donc déduire que le Saint-Esprit, insufflé par Jésus aux disciples, est l'esprit vivificateur. En quoi consiste cela? Voici ce que Jésus a dit. « Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. » C'est-à-dire qu'il est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle doit impérativement passer par le pardon des péchés. Il n'y a pas de vie éternelle sans le pardon. Même si je ne veux pas faire de cours de catéchisme ici aujourd'hui, le texte que nous avons est un exemple parfait d'un aperçu sur l'importance de la valeur du baptême, le baptême que tu as reçu. Quand on parle de baptême, trois choses viennent avec le Saint-Esprit, le pardon et la vie éternelle. Ces trois points sont interdépendants. Lors de notre baptême, nous recevons le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit qui nous donne le pardon. Et ce pardon nous dit que nous sommes justifiés et nous avons reçu l'accès là où Dieu est, c'est-à-dire la vie éternelle. Puisque nous étions sanctifiés, que nous pouvons se présenter devant la sainteté de Dieu. Donc, chers frères et sœurs en Christ, en tant qu'enfants de Dieu, la fête de Pentecôte est en quelque sorte une fête de commémoration du jour où nous avons été baptisés. Normalement, aujourd'hui, nous devons tous célébrer combien d'années d'anniversaire que tu viens de célébrer pour le jour de ton baptême. Qui se rappelle du jour de son baptême aussi? Ce sera un devoir un peu compliqué, mais bon, juste une réflexion. C'est le jour de la commémoration. Beaucoup de gens fêtent les 50 ans de mariage, les jubilés, les anniversaires, qui est bien, bien sûr. Mais combien parmi nous se souviennent-ils de ce grand jour, ce jour où Dieu nous a adoptés? Quelle est l'importance de cet acte divin à nos yeux? Et pour terminer, la semaine passée, dans l'actualité, les Français étaient outrés de voir à la télé quand on a vandalisé la tombe du général de Gaulle, parce que son nom est lié à l'histoire de l'Europe, du pays même. Tout le monde criait, c'est un crime de piétiner le mémoire de tous ces gens qui ont sacrifié leur vie. Alors je vous incite aussi à ne pas minimiser le mémoire de votre baptême, qui n'est pas du tout juste un simple symbole. C'est vrai que c'est symbolique à l'extérieur, mais c'est plus que ça. C'est plutôt un acte divin, un acte d'adoption céleste. Alors je dirais aussi que le rebaptême, par exemple, est un acte grave, piétinant l'œuvre qui a été faite par notre Seigneur. Et il y a encore quelque chose de plus grave que cela, ceux qui demandent à être débaptisés. Il y en a tellement aujourd'hui qui ont demandé à leur prêtre, à leur curé, « Débaptisez-moi, monsieur le curé ». C'est comme si on ne veut plus être le fils de telle personne. Alors garde avec joie cette parole que le Seigneur te donne. En effet, Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, rappelle-toi, aucun des anges a reçu le privilège que tu as reçu. C'est toi qui es mon fils. À partir d'aujourd'hui, je suis ton père. Il n'a jamais dit à propos d'un ange, je serai un père pour lui. Et sera un fils pour moi. Hébreux chapitre 1, verset 5. Est-ce que tu reconnais cette valeur que tu as? Tous les anges du ciel qui servent Dieu chaque jour n'ont pas ce privilège que tu as. Comment oses-tu renier le titre que Dieu t'a donné? Amen.